Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On l'a surnommé l'Eric Clapton du luth, le musicien franco-américain Thomas Dunford, l'un des plus grands luthistes de sa génération, fait ses débuts en solo en Australie à l'Opera House de Sydney dimanche 6 septembre dans le cadre de la série Hudson Music. Il a découvert cet instrument ancien à seulement 9 ans et est aujourd'hui reconnu pour le son unique qui redonne toute sa lumière à la musique ancienne. On reçoit Thomas Dunford. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Thomas, pouvez-vous un petit peu nous expliquer comment un enfant de 9 ans se met à jouer du luth?
Alors en fait, j'ai toujours glingouillé depuis que j'étais enfant. J'avais d'abord un ukulélé, puis une guitare. Et mes parents sont tous les deux des joueurs de viol de gambe. Ils se sont rencontrés à Bâle. Mon père était un New-Yorkais, un violoniste new-yorkais qui s'est passionné de viol de gambe et était fasciné par Jordi Savall. Donc, il allait dans la classe de Jordi Savall où il a rencontré ma mère. Et ma sœur et moi, on a grandi avec cette musique baroque à la maison. Et à un moment donné, j'étais à un stage quand j'avais 9 ans et ma mère me dit « T'as l'air de t'ennuyer un peu, tu veux pas prendre un cours de luth ?» Et j'ai pris un cours avec Claire Antonini, dont je me souviens encore, où je suis vraiment tombé amoureux de l'instrument à ce moment-là.
Ouais, donc ça, c'est vraiment, vous avez baigné dedans depuis que vous étiez tout petit. La famille vous a un petit peu orienté vers ce choix. Mais dès le début, vous étiez aussi très talentueux parce que vous avez commencé à faire quelques scènes très jeune aussi.
J'ai eu de la chance, en fait, quand j'ai eu 14 ans, la Comédie Française avait besoin d'un luthiste pour La Nuit des Rois de Shakespeare. Et donc ça a été ma première expérience professionnelle. J'ai invité mes professeurs à la Comédie Française et du coup ils me donnaient des bonnes notes, ce qui était bien. Et j'aimais bien, c'était chouette avec Guillaume Gallienne faire Dowland, Flow My Tears. C'est une belle première expérience. J'étais l'enfant et puis il y avait plein de super des acteurs très inspirants autour qui m'ont pris un peu sous leur aile et qui étaient vraiment adorables.
Alors, qu'est-ce qui fait cette caractéristique du luth par rapport à un autre instrument? Qu'est-ce qui est la spécificité qui vous a vraiment convaincu? C'est l'instrument qui est fait pour moi ou je suis fait pour cet instrument?
C'est un peu comme quand on tombe amoureux, c'est un peu difficile à décrire en mots, mais il y a certaines choses quand même que je peux dire, c'est que... Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui se passe, en fait, quand tu découvres l'instrument que tu aimes. Sachant que j'aime beaucoup d'instruments, j'aime beaucoup toutes sortes de musiques, je peux adorer un piano, mais le luth, il y a un truc assez magique, dans le sens où c'est un instrument qui a une forme ronde et qui crée une résonance avec les cordes sympathiques aussi. Comme les instruments un peu indiens qui ont un halo autour, une espèce de halo sonore qui vient avec. Donc j'adore aussi la guitare, j'adore tous les instruments à cordes pincées, mais il y a quelque chose de particulier avec le luth, avec cette espèce de... C'est un instrument extrêmement fragile, mais avec cette fragilité, on peut faire plein de couleurs. On peut jouer... Il y a une palette de couleurs énorme, et il y a un son qui est en même temps très poétique, très doux, et qui peut être aussi très dur, et avec cette enveloppe d'harmonique qui est vraiment très agréable. Quand on prend une guitare, une guitare classique, on a beaucoup moins de spectre harmonique que sur un luth.
Alors jouer du luth en 2026, est-ce que c'est un avantage? Il y a pas beaucoup de joueurs ou il y a beaucoup de joueurs de luth aujourd'hui? Il y a une industrie du luth aussi bien au niveau de l'artisanat que au niveau commercial? Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose à faire avec le luth aujourd'hui? Ça vient, c'est toujours tendance?
Ça s'est développé. Quand j'étais au lycée, personne ne savait ce que c'était un luth. On me disait, c'est quoi ça? Et maintenant, quand je marche dans la rue, les gens disent, c'est un luth. Donc, je pense que ça a un petit peu commencé à se développer dans la imaginaire des gens. C'est pas aussi reconnu qu'un violon ou un violoncelle, mais petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui en jouent. Et c'est un instrument qui intéresse de plus en plus de monde, je pense.
Alors, on vous a surnommé l'Eric Clapton du luth. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas. Vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de luth au monde.
Ah bah c'est gentil si le monde pense ça. Eric Clapton, c'est un grand musicien. Enfin, j'ai eu de la chance qu'il choisisse Eric Clapton dans ce journal. BBC Music Magazine, je crois que c'était pour le. Et ils ont dit ça, mais bah, pourquoi pas? Je veux dire, je pense qu'on est chacun soi-même, que Eric Clapton est Eric Clapton et que moi je suis moi et que chaque personne est lui-même. Mais s'ils veulent faire des comparaisons, je suis très content qu'ils aient choisi Eric Clapton, qui est un incroyable guitariste, incroyable musicien.
Alors parlez-nous un petit peu de l'ensemble Jupiter que vous avez créé en 2018. Expliquez-nous un petit peu ce projet.
En fait, j'avais passé beaucoup de temps avec. Donc, à partir de 14 ans, j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer avec Pygmalion, avec les Leonardo Garcia Larcón, Skip Sampé, Marc Minkowski, Emmanuel Haïm, William Christie, enfin Philippe Hervé, enfin tous les beaucoup les, des groupes français et anglais de musique baroque. Et j'ai donc fait des rencontres, j'ai appris pas mal de choses et j'ai eu envie de, quand on s'est rencontré avec Léa Desandré, on a eu envie de créer ce groupe où on réunissait certains de nos amis. Donc au tout début c'était avec Jean Rondeau, Théotime Langlois-Swart, Louis Créache, Jérôme Van Verbeek, Bruno Philippe, Doug Balliet et Peter Whelan. Et on a commencé sur Vivaldi parce que j'étais convaincu justement que la musique baroque, la musique classique est une musique qui est extrêmement puissante, qui peut parler à tout le monde, mais ça tout dépend de l'interprétation et de notre façon de la faire vivre. Et l'idée, c'était de prendre, de se réunir avec des gens exceptionnels pour travailler vraiment au fond et rendre cette musique vivante et accessible pour tout le monde dans une manière de jouer qui est, très vivante et moderne, qui permettrait de pas avoir ce qu'on voit dans les films américains où on entend pim, 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 palala, avec le quatuor à cordes, très léché. Je me suis dit autant prendre du Vivaldi, qui est la musique qui peut être stéréotypée, et montrer qu'en fait elle est pas du tout. Et tout le but, ça a été toujours ça, c'était de Jupiter, qu'on fasse un projet de comédie musicale, qu'on fasse de la musique pop, qu'on fasse du baroque, c'est toujours d'être intègre par rapport à la musique qu'on veut donner et de la faire vivre d'une manière très authentique qui permet de toucher les gens.
Est-ce qu'on vous a déjà demandé, des artistes modernes, on va dire, de musique moderne, on vous a déjà demandé de les accompagner dans des créations artistiques particulières?
Oui, j'ai joué avec Bobby McFerrin une fois. C'était très inspirant, sacré musicien, une oreille incroyable. On a improvisé pendant 15 minutes au Théâtre du Châtelet ensemble. C'était vraiment une belle expérience. Et là, je travaille sur un album parce que j'ai toujours joué plein de musique. Donc, j'ai toujours joué autant du baroque que du jazz, que de la pop. Et là, je travaille sur un album que je vais sortir bientôt de toutes mes chansons. Et je vais peut-être faire des featuring avec certains artistes pop, ouais. Peut-être Pete Doherty et
Ah,
d'autres qui
beau
en
projet
ont.
donc. Alors parlez-nous un petit peu de votre présence à Sydney. Qu'est-ce qui vous amène dans cette belle ville?
Alors, je crois que c'est la Hudson Room qui m'a, l'Opéra de Sydney, qui m'a invité pour faire ses récitals. Donc, je joue à Melbourne et à Sydney. Et là, je suis en Tasmanie pour trois récitals aussi, avec Fun Dimes Band. Et ça me permet de. Ben là, on va voir l'Australie. On continue à découvrir. À chaque fois que j'ai un peu de temps off, je vais dans la forêt, dans le bush, pour un peu m'imprégner du pays. Et j'adore ça. Ça me donne des choses à raconter sur scène.
Donc
Mais.
vous êtes en tournée, Tasmanie, Sydney, Melbourne. Ce sera le même programme à l'affiche?
Alors là, en fait, le programme en Tasmanie, c'est très libre. Il n'y a pas de programme annoncé. Donc en fait, là, je viens de jouer il y a 1 heure et demie avec le public et je leur disais qu'est-ce que vous voulez entendre et ils ont proposé des choses et c'était assez libre. C'est un super festival avec des gens adorables, Julia et Chris, qui sont vraiment très ouverts d'esprit. Ça fait plaisir. Surtout quand on vient d'Europe où il y a plein de cadres. Là, on est en train de conduire. On va s'arrêter dans une réserve aborigène pour s'inspirer. Et à Sydney, ce sera un programme, donc ce sera Dowlands, Maramarais, Capsburger, Bar. Et puis, j'aime bien aussi laisser la liberté et voir ce qui va se passer dans le moment présent.
Donc il y aura vraiment une communion avec le public. J'ai cru entendre, ou je me trompe, que vous aimiez les faire chanter aussi.
Ouais, le mot communion, c'est un mot important pour moi, en fait. Je pense que bah là, on vient de chanter avec le public Imagine, there's no heaven, imagine people living life in peace. Et je pense qu'un des miracles de la musique, c'est ça, c'est que ça permet de réunir les gens et ça permet de reconnaître notre véritable, pour moi, notre véritable nature, c'est on fait partie du même tout. Et la musique révèle ça. Je trouve que dans le monde actuel, avec toutes les tendances égocentrées du monde, ça fait du bien de se réunir dans un endroit et de faire de la musique ensemble. Et même la forme récitale, finalement, c'est Rachmaninov qui l'a mise en place il y a 100 ans, où il y avait un artiste, mais c'était une forme particulière. Avant, la musique était toujours partagée. Si on allait à l'église pour écouter Bach, c'était la communauté qui priait ensemble. Ou si on allait chez Louis XIV, Couperin jouait une pièce ou deux visées, ils se connaissaient, ils passaient un moment ensemble où les gens allaient à l'opéra et c'était leur film, quoi. Mais ils allaient écouter Beethoven. Et il y avait quelque chose de communautaire. Et je trouve que peut-être dans la musique classique, on a un peu oublié ça des fois, donc ça me fait du bien. Tous ces moments où on peut partager, où on peut chanter ensemble, où la musique est partagée, ouais. Ça, c'est, je trouve ça, c'est important.
Un retour aux sources en quelque sorte. C'est cette partie-là qui vous plaît le plus. Vous prenez le plus de plaisir quand vous êtes en concert, en communion avec le public.
De toute manière, je pense que n'importe quel concert, même si on ne fait qu'une performance, à la fin, ce qui est beau, c'est cette communion qui existe. Parce que la musique, elle résonne dans chacun de nous. C'est une manière de ce qu'on ressent. Si un artiste est sur scène et il ressent des choses, les mêmes choses sont ressenties par miroir par le public. Donc finalement, il y a une connexion qui se crée. Et à la fin, il y a une unité qui existe. Et c'est cette unité-là que je pense qu'on recherche dans la vie en général, que ce soit en musique ou dans n'importe quel, enfin, qu'on fasse un repas extraordinaire ou qu'on partage un moment amical ou à chaque fois, ce qui nous plaît, c'est de retrouver cette unité-là. Enfin, en tout cas pour moi.
Alors, j'imagine qu'il y a aussi, vous avez fait le tour du monde, vous avez joué pour le monde entier en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des publics qui ont des spécificités particulières? Est-ce que le public australien, a une facette particulière à vos yeux?
J'aime beaucoup le public australien. Il y a certains publics, donc le public japonais, on n'entend pas une mouche voler. Ils sont tellement sages qu'on dirait qu'ils retiennent la respiration. C'est un super public, mais très 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 respectueux. En Australie, il y a ça, mais il y a une liberté aussi que j'aime bien. Ils sont très. Ouais, j'ai l'impression que dans ce pays, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de nature, donc ça rend les gens très ouverts, très très chaleureux. En Corée, j'aime bien le public coréen aussi parce que ils écoutent avec une grande attention, mais après c'est la fête, quoi.
On est certain que le public australien va vous réserver un magnifique accueil et que vous en profiterez. Et profitez bien du pays qui est magnifique.
Ah oui, c'est ce que je fais, j'adore. Bah, c'est ce que j'ai fait pendant 2 semaines avec Musica Viva. Dès qu'on a tiré ses quelparents, on allait vers des plages magnifiques. Et là, quand on est en train de conduire de Launceston à Burnie, et sur le chemin, on va s'arrêter sur une réserve aborigène pour s'imprégner. Et ensuite, on va aller voir une magnifique plage.
Donc ça peut
Et
être,
on va
ça va
continuer
peut-être
à.
vous inspirer pour de futures compositions un petit peu plus particulières. Alors peut-être que cette rencontre avec cette communauté australienne va vous influencer quelque part.
Ah, c'est sûr, en fait. Moi, je pense que quand on est musicien, il y a tout le travail technique qui est là, qui nous permet de jouer les notes. Mais ensuite, le vrai travail, c'est d'incorporer dans tout ce qu'on vit dans la vie, ça dans la musique. Donc, en fait, tout ce qu'on absorbe, toutes les expériences qu'on a peuvent se retranscrire dans la musique. On a besoin d'inspiration.
Eh bien, bravo en tout cas, et on espère donc que le public sera présent pour vous féliciter et pour communier et chanter avec vous. Bon séjour en Australie et bon concert donc.
Merci beaucoup.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.